Lui aussi, c'est un écrivain installé en région, n'est-ce pas, Claude? Vous pouvez prendre votre micro, Claude. Claude Jasmin, bonjour.
Bonjour.
Oui. Merci, Marie-Gagné, merci beaucoup. Oui, on voulait, vous savez, vous faire précéder d'une dame très polie, parce qu'on sait qu'avec vous, c'est toujours dangereux. D'abord, vous me promettez de ne pas ronfler, hein? Ça, c'est la première des choses, hein?
Comment?
Vous promettez de ne pas ronfler.
Non? Oui, 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 c'est promis. Tu sais, à mon grand âge, ça ne me fait plus rien. Je sais que tu cherches à me piquer, mais je te préviens, ne perds pas ton temps. Parce que, arrivé à mon âge, on se fout un peu de tout. Oui, on n'a comme plus rien à prouver.
Sur la peau d'un canard.
Il n'y a plus rien pour me choquer.
Malheureusement, et heureusement pour nous, et malheureusement pour vous, vous n'étudiez un roman, Claude, qui s'appelle Chinoiserie chez VLB Éditeur. Un roman très, très touchant, très, très simple.
Merci.
Non, mais...
Non, mais c'est rare que les animateurs ont lu nos livres. Merci d'en être un.
Ben là...
Qui lit ce dont ils parlent.
C'est la moindre des choses, là. On parle
oui,
pas
merci,
des autres.
Merci.
Mais c'est quand même assez étonnant. On connaît votre grande gueule, vos déclarations intempestives, vos lettres aux journaux, tout ce polémiste en vous. Et là, tout à coup, on ouvre ce roman Chinoiserie, on découvre un être très, très simple, une écriture épurée, même que vous avez évité les majuscules et les points, enfin, seul souffle. L'histoire d'un homme de 77 ans, on peut s'imaginer un peu que c'est vous, connaissant la géographie où vous habitez, dans ce Saint-Adèle chéri, on voit
oui.
un peu votre maison, où on voit tourner autour du lac, aller faire vos longueurs de piscine au Chanteclair, j'imagine, et puis on voit tout ce... C'est pas nommé dans le livre, mais j'ai
oui,
imaginé
oui.
tout ça en le lisant.
Oui.
Et ce vieil homme qui est dans le roman condamné à mort, d'une certaine façon par son médecin, d'ici quelques mois, peut-être un an, peut-être un peu moins, se met à vouloir survivre beaucoup, s'entraîner, et revient en mémoire cette enfance incroyable et qu'on avait connue à travers la petite patrie, tout
un
ça.
Un peu, oui.
Mais là, vous nous ouvrez un volet qui est la Chine.
J'avais oublié étonnant. De parler de la Chine, oui. C'est fou, hein? Mais j'aurais pu raconter dans la petite patrie que mon père avait un magasin de chinoiserie
mais là,
sur la Plaza Saint-Hubert. J'ai pas raconté ça, ni dans Enfant de Villeray, ni dans le livre, je parle pas de la télé, mais le livre, la petite patrie. Je parle pas que mon père était vendeur de chinoiserie pendant des années. Je sais pas pourquoi, comme un lac, mon père, je le voyais en restaurateur.
Mais l'enfant ici
il a 5 ans, hein, 5
scolaire,
ans
ouais, exactement. Donc peut-être que le père a eu ce magasin avant le restaurant, c'est ça?
Oui, c'est ça. Quand je suis venu au monde, il avait son magasin.
Alors ce Chinatown dans lequel l'enfant va aller faire des tours comme ça, ça avait l'air d'une fascination mais complète là. On changeait de continent là, quand on descendait la rue Saint-Laurent là.
D'abord, j'étais fou de mon père jusqu'à temps qu'on se chicane. J'étais fou de lui, c'était mon héros. Je me suis rappelé, en écrivant ce livre, comment j'avais aimé mon père. Je dis ça parce que j'ai eu vraiment un gros contentieux avec lui, tu sais, à l'adolescence. Et je me suis rappelé comment je l'avais adoré. Je pense qu'on le sent dans le livre.
Beaucoup.
Sa main.
Et vous avez adoré aussi. On sent le protecteur.
J'étais le plus vieux de la famille, le premier garçon.
Vous donnez beaucoup de responsabilités. Vous laissez seul dans le vieux port en train de pêcher à 5 ans.
Oui, il s'en allait à la pêche. Il faut comprendre qu'en 1935, ça se passe en 1935, le port de Montréal, il n'y a pas de pavé puis de lampadaire. C'est sale. Et il y a des trains puis il y a des bateaux qui accostent. Il n'y a pas tout le port de Montréal là, qu'on voit à l'est là, jusqu'à Pinneuf. Ouais. Alors, le port est un lieu d'activité, je dirais, cheap, tu sais. Et mon père, il y avait d'autres pêcheurs, pas seulement moi, ou mon père, mais mon père est un campagnard. Il vient de la campagne, il allait à la pêche, jeune. Ma mère est une fille de la ville, elle vient de Pointe-Saint-Charles. Mais mon père m'a initié à la pêche au port de Montréal, au bout de la rue Saint-Denis. On prenait le tramway 24, il me débarquait au port, puis il disait, là, je vais aller acheter mes... Chez mes Chinois, là, salut la gauche, je tiens. Je reviens dans une heure, Claude. Une heure et demie.
Il vous laissait seul, là, à 5 ans.
C'est pas tout. Oui, 5 ans et demi, j'allais entrer à l'école.
C'est pas trop dangereux, le Montréal d'époque, là, parce qu'on
ne
fait pas ça aujourd'hui.
Non, on pensait pas danger à cette époque-là. Il y avait pas, on parlait jamais de pédophilie, Le monde, je sais pas, est-ce que le monde était meilleur ou le monde était plus innocent?
Ou plus secret, peut-être.
Hein, un des deux.
Peut-être secret.
Oui, mais il m'est rien arrivé,
Dans toute votre vie, je pense pas, non, ça c'est autre
chose. Oui, j'ai peut-être été chanceux,
Claude, je vais lire un extrait de ce roman, Chinoiserie, c'était au tout début, qui évoque ces voyages que l'enfant fait avec son père dans ce Chinatown rêvé. Oui. Un autre lundi tant aimé. L'enfant accompagne son père dans le quartier chinois. Il aime tant ça, se sentir comme dans une autre ville, voir toutes ces enseignes aux lettrages illisibles. Il tient fermement la grosse main de son cher papa. Il a l'assurance chaque fois que rien ne peut lui arriver de désagréable, qu'il est protégé de tout. Sa mère lui a déjà dit: tu n'as pas peur de tous ces inconnus qui viennent de si loin? Moi, je me sentirais pas trop brave à ta place. Il a ri. Au contraire, il croise parfois des enfants chinois. Il aimerait bien savoir parler leur langue comme le grand frère de papa exilé là-bas. Ils vont donc tous les deux la main dans la main. D'un marchand à l'autre, son père guette les bonnes occasions, les vraies aubaines. Il cherche des importations nouvelles qui sauraient plaire à sa clientèle du magasin dans le nord de la ville. Il arrive parfois qu'ils aillent s'installer dans un des restaurants du Chinatown pour un rouleau impérial, son mets favori à l'enfant, avec beaucoup de sauce sucrée. Que d'offres! Jolies lanternes, pliables comme des accordéons, parasols de papier vernis peint, petits chapeaux pointus, kimonos variés, éventails d'ivoire décorés, multitudes de statuettes sculptées dans diverses matières. Dans une lettre récente, l'oncle exilé a raconté qu'un franciscain zélé à Pékin aurait forgé une légende pour s'attirer des convertis, une histoire invraisemblable. La Sainte Vierge et bon Joseph, menacés par le méchant roi hébreu, se seraient réfugiés, oui, en Chine. En Chine, mais oui! Pour accoucher du divin enfant Jésus, loin du menaçant despote Hérode. Grand succès de ce conte pieux, et depuis, pléthore de crèches de Noël, made in China, mode qui se répand partout, avec des personnages chinois, les trois rois mages compris.
Que tu es un bon lecteur.
Oh, merci, c'est gentil. Claude Jasmin, les lettres dont on fait référence ici, qui viennent de Chine, du frère de votre père, qui était
le frère de papa,
missionnaire, comme plusieurs Québécois l'ont été. Est-ce que ces lettres-là qui sont insérées dans le récit sont réelles?
Quelques-unes ont été ajoutées avec les annales des prêtres des missions étrangères. J'ai retrouvé les lettres de mon oncle Arnès, on l'appelait mon oncle Arnès. C'est ça qui m'a fait écrire le livre. Deux choses. Une, j'ai été très malade, je suis pas condamné à mort. Ça, c'est la partie un peu fictive.
Ça va mieux, là, on sent.
Mais ça va mieux, oui. Mais j'ai été très malade. Ici, au Delta, à Trois-Rivières, des ambulanciers sont venus me chercher.
Ah bon?
J'ai tout fait. J'avais des crises. On m'a expliqué que c'était des reflux gastriques. Je prends du Lipitor maintenant,
pour la pharmacie, hein, Claude.
Mais j'ai eu très peur, parce que j'ai tout fait souvent comme ça.
Ah bon?
Et je tombais.
Ah bon?
J'ai tombé dans l'escalier de la cave. Je suis tombé devant le chantelet. Je tombais, j'ai tout fait. Mais comme je te dis, là, maintenant, on me soigne. Mais c'est ça qui m'a fait écrire le livre. La peur de la mort et la découverte des lettres de mon oncle Ernest en Chine. J'ai adoré lire ces lettres-là. Cloutier, un petit gars de 5 ans qui sait lire, son père lui a appris à lire, comme tu as vu, qui sait lire et écrire, et qui reçoit des lettres de 10 pages de son mononcle en Chine, avec des photos, des cartes postales de Chine. Je rêvais d'aller en Chine. Je trouvais ça extraordinaire.
Un rêve jamais accompli.
Non, c'est vrai. Mais là, je veux-tu te raconter des détails? Raymond, ma compagne, que tu connais, ça l'intéresse pas, la Chine. J'ai voulu aller en Chine 2-3 fois. Puis elle me disait, écoute, pourquoi on n'irait pas en Grèce, ou en Italie, ou en Égypte? Elle, la Chine, ça la laisse froide, elle a le droit, tu sais. Mais moi, je l'ai sur le cœur. J'espère qu'un jour, je vais aller en Chine.
Oui, vous le racontez ça dans le livre, cette anecdote à propos de la campagne, mais cette moment-là, c'est encore un procédé d'auto-fictionnel, comme on dit. La campagne, dans le roman précédent, est morte à New York, oui.
Il a fallu que j'en forge une autre.
Oui.
Elle s'appelle Raymond, l'autre s'appelait Rachel, oui. Celle-là, je l'ai appelée Roland, pour me tenir près du R.
Oui, et là, on va être au bout des prénoms qui commencent ainsi. Mais cette... position vis-à-vis de l'autofiction, là, vous semblez très confortable, non? Vous, en fait, vous
j'aime ça, oui. Oui.
Et ça fait longtemps que vous aimez ça.
Oui. Et j'avais abandonné l'autofiction depuis quelques années. Et donc, la découverte des lettres chinoises et la peur de mourir, j'ai eu tellement peur avant que les médecins s'occupent de moi, m'a fait revenir à l'autofiction. Et puis, je m'étais rappelé, donc, que j'avais pas parlé de mon oncle qui vendait des Chinois, de mon père, qui vendait des chinoiseries, rue Saint-Hubert.
Pas des Chinois, des Chinois.
Oui, mais on achetait des Chinois.
Oui.
Il vendait des chinoiseries de biais avec le cinéma Plaza.
Oui.
Et le plus étonnant, c'est que le magasin de papa est devenu une librairie. C'est merveilleux, c'est chez Raffin.
Rue Saint-Hubert. Oui. Ben, bravo, c'est bien.
Symptomatique,
oui.
Hein?
Parlant de la mort en terminant, il y a beaucoup d'explications de l'attitude des Chinois vis-à-vis de la mort dans ce livre aussi. Ça aussi, le vieil homme qui est en train d'écrire, qui est vous, mais enfin, un peu, il y a de la fiction aussi, va chercher dans cette enfance qui connaît des clés et des rituels de mort une sorte de réconfort. C'est vrai?
J'adore quelqu'un qui me raconte ce qu'il a ressenti. Vous savez, un écrivain, un roman...
C'est nous qui faisons les livres, c'est les lecteurs qui font les livres.
Voilà, je suis content que tu dises ça.
Non, c'est vrai.
Mais il a raison.
Mais c'est pour
vous
ça.
Vous savez que oui, mais c'est très vrai ce que tu dis. Et je dirais même qu'un tableau de génie, regardé par un crétin, devient un tableau de crétin.
Une croûte, oui.
Mais là, c'est le contraire. Un roman moyen, lu par quelqu'un de qualité, devient un roman de qualité. Donc, les gens m'abordent, ils viennent de sortir dans les librairies, ils me disent des choses... Je les écoute tout oui. Chacun fait sa lecture.
Mais ma question, Claude Jasmin,
oui.
Le rituel de la mort chez les Chinois,
oui.
Qu'est-ce qui vous a fait tant fasciner là-dedans?
Oui.
Ça a l'air réconfortant. Qu'est-ce qu'il y a?
D'abord, c'est tout en blanc.
Ah, oui.
Il me semble que c'est mieux que le noir.
Oui.
C'est tout en blanc. Il y a là comme une chasse aux démons, hein, tu l'as lu.
Oui.
Une chasse aux démons qui est extraordinaire avec un rituel. Et je me rappelle avoir joué dans la ruelle à la cérémonie des morts.
Tout jeune,
parce que c'était beau, oui, on se mettait des masques de l'Halloween, comme je le raconte dans le livre, dans Chinoiserie. Ils ont pas peur de la mort, ils en parlent. T'as vu, on apprend beaucoup sur la chaîne des années 35, hein, ça.
Beaucoup.
Ils achètent leur tombeau de leur vivant. Et ils l'entretiennent, hein, t'as vu?
Et ce vieux, comment on dit ça,
le bédo
de votre oncle en Chine,
oui.
Revient donc avec ce tombeau qu'il a acheté.
Oui.
Il est très fier, il lui demande et il va préparer ça pendant toute sa vie, il va préparer sa mort.
Je trouve la mort, l'outil extraordinairement importante. Ici, on cache la mort aux enfants, on camoufle la mort, et on devrait pas. C'est le prix de la vie.
Vous pouvez m'appeler Raymond, vous savez, Claude.
Oui, c'est vrai, oui. Mais moi, à l'école, t'es plus jeune que moi. À l'école et au collège, on nous appelait par nos noms de famille. On nous appelait Jasmin, Tremblay,
Monsieur
Gagnon.
Jasmin. Monsieur, il vous a monsieur
non?
quand même, non?
Au Grasset, oui, c'est vrai.
À Grasset,
oui,
bon,
t'as raison. Bien,
il me semblait
oui,
aussi.
C'est vrai.
Claude Jasmin, merci beaucoup.
Merci à toi
d'avoir écrit ça. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ceux-ci, aussi percutants et en même temps d'une simplicité, mais exemplaire.
Oui.
C'est vraiment touchant.
Chinoiserie. J'allais dire, viens mon kiosque à côté, là, mais tu l'as.
Mais je l'ai. Comment? J'invite pour le lire.
J'invite ton public de Trois-Rivières à venir à côté, là, chez VLB.
Alors, tu vas avoir la santé et la patience pour signer tous ces livres de ces milliers de spectateurs que nous avons aujourd'hui. Alors, bonne chance. Merci. Chinoiserie chez VLB éditeur, Claude Jasmin. Oui.